Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez, nous sommes sur un enseignement dédié à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit, le membre de la Trinité si souvent minimisé par les uns, et par d'autres qui lui attribuent des choses dont il n'est pas responsable. Nous avons commencé la série en parlant du blasphème contemporain du Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit, et même dédaigner le Saint-Esprit. Histoire de vous donner un aperçu de ce qui se passe à l'extérieur, et afin que nous sachions à quel point il est important d'avoir une vraie et bonne compréhension du Saint-Esprit. Je vais poursuivre avec notre étude, et nous allons continuer dans Romains au chapitre 8. Ce sera notre passage de base. Mais je vais vous faire beaucoup plus qu'un exposé de Romains 8. Nous l'avons fait au fil des ans. Je vais essayer d'en sortir ces choses qui sont importantes pour notre compréhension du ministère du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si crucial? Parce qu'en tant que chrétien, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous avez été baptisé par le Saint-Esprit, placé dans le corps de Christ, et à la suite, le Saint-Esprit a élu résidence en vous. Il vit en vous. Vous avez reçu l'ordre d'être rempli de l'Esprit, de marcher selon l'Esprit, de manifester fidèlement les dons de l'Esprit, d'honorer le Saint-Esprit. Ce ne sera que juste de dire que la force même de votre vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Et donc il est très, très important de comprendre le véritable ministère du Saint-Esprit face à toutes ces choses qui lui sont faussement attribuées. Pendant que je me demandais de quelle manière nous pourrions comprendre le ministère du Saint-Esprit d'une façon complète dans nos vies, mon attention a été attirée sur le fait que le meilleur moyen de comprendre le ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est de comprendre le ministère du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, dans la vie de notre Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Et nous allons nous arrêter à Romains 8, versets 12 et 13. Le Saint-Esprit était le compagnon inséparable de Christ. Un écrivain dit « Du sein de la tombe et au trône, toutes les activités dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, toutes les activités de sa vie, de sa naissance à son ascension, en passant par sa résurrection, ont eu lieu en présence du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Nous disons souvent que Christ est notre modèle. C'est lui notre exemple. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi de Christ. Mais je n'entends pas souvent ce sujet abordé à la lumière du ministère du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus. Pourtant, c'est la meilleure façon de comprendre la vie chrétienne, de comprendre que Christ a mené sa vie grâce au ministère de l'Esprit de Dieu, et comprendre ensuite qu'ayant l'Esprit en vous, vous pouvez immoler le modèle démontré en Christ. Il est l'exemple d'une vie remplie de l'Esprit. Il est le modèle d'une vie équipée par l'Esprit. Il nous en fait une parfaite démonstration. Une parfaite démonstration. Nous devons commencer au point de départ. Lisons Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel vient sur la terre en provenance de la présence de Dieu au ciel. Il arrive en Galilée, dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille vierge, qui avait probablement entre 12 et 13 ans pour lui faire une annonce. Elle est fiancée à un homme nommé Joseph. Tous les deux sont descendants de David. Elle s'appelle Marie. Il vient auprès d'elle et lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, un visiteur venu du ciel. » Pareil événement ne s'est jamais produit. C'est choquant. Elle est perplexe. Elle essaye de comprendre ce qui se passe. L'ange lui dit au verset 30 « Ne crains point, tu as trouvé grâce devant Dieu. et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Tu deviendras la mère du Messie, le fils de Dieu, le sauveur du monde. Maintenant, toute cette histoire dépasse tout entendement, mais le premier problème est sa préoccupation immédiate. Comment deviendrai-je enceinte? Je n'ai pas de mari, et je suis encore vierge. Elle est plutôt pratique comme fille. C'est bien beau de l'entendre, mais je suis vierge. Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ces affirmations sont synonymes. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » La puissance du Très-Haut et le Saint-Esprit désignent la même personne. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en action, le rouage de Dieu. Vous vous en souvenez? La force violente, l'énergie et la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, il arrive avec, dans sa personne, la puissance du Très-Haut. Elle te couvrira de son ombre, elle planera sur toi. Ceci ressemble-t-il à une scène familière? Si vous retournez à la création, vous verrez le Saint-Esprit planer sur l'abîme sans forme des éléments matériels à partir desquels Dieu devait créer. Et le Saint-Esprit plane et se meut au-dessus des eaux, les amène à la création et les identifie pendant les 6 jours de la divine création. De la même manière, de la même façon qu'un acte de création, de puissance surnaturelle, le Saint-Esprit viendra et la puissance divine planera sur toi. Et pour cette raison, à cause de la présence du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, le Saint-Enfant, sera appelé Fils de Dieu. Tu auras un enfant par la puissance créatrice du Saint-Esprit alors que tu es encore vierge, sans l'intervention d'aucun homme. Ceci est un acte divin, un acte de création, et cet enfant sera le Fils de Dieu. Cet enfant sera un Saint-Enfant. L'incarnation même, la création initiale du Fils de Dieu incarné est une œuvre du Saint-Esprit. Une œuvre du Saint-Esprit. La naissance de Jésus est un acte du Saint-Esprit. Plus important encore, la conception de Christ, le Fils de Dieu, le Dieu-homme, dans le sein de Marie est une œuvre de création du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit ne quittait plus cette vie. Pendant les 9 mois dans le ventre et pendant toute sa vie jusqu'à l'ascension, le Saint-Esprit est le constant compagnon inséparable de celui qui se fit chair, le Fils de Dieu. Il est né saint, il est né saint. Vous allez ensuite, dans sa jeunesse, et vous demandez. Mais qu'en est-il de ces 30 années entre son enfance, sa jeunesse et le début de son ministère? Que se passe-t-il dans sa vie? Eh bien, nous en avons un aperçu. Un seul incident est relevé, et c'est, vous le savez, à l'âge de 12 ans, quand il va au temple avec ses parents. Bien que ce ne soit qu'un incident, si vous lisez le chapitre suivant de Luc, vous verrez qu'il décrit toute une période de sa vie, tout un processus de sa vie. Dans le 2e chapitre de Luc, au verset 40, nous lisons à propos de Christ. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Ensuite, vous lisez plus loin au verset 49. « Il est conscient de ce que Dieu est son Père. » À ce moment, sa théologie est déjà claire dans sa tête et il doit être dans la maison de son Père à s'occuper des affaires de son Père. Au verset 52. « Et Jésus croissait en sagesse. » En stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien que ce ne soit qu'à une occasion de sa vie à l'âge de 12 ans, ce passage décrit sa vie entière, toute la période de son développement et de sa croissance. Notez ces paroles. Il se fortifiait, il croissait en sagesse. La grâce était sur lui. La connaissance s'accroît et il devient conscient des affaires de son Père et s'y attelle. Il croit en sagesse, en stature, en faveur devant Dieu et devant les hommes. Quelle puissance produit tout cela? En retournant dans l'Ancien Testament, vous trouvez la réponse à cette question. Dans Ésaïe, au chapitre 11, il y a une merveilleuse prophétie sur la venue du Messie. Ésaïe écrit au chapitre 11, au verset 1, qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Isaïe étant le père de David, dont le nom est aussi Jessé dans certaines versions de la Bible, et le fils lointain de David. Le Messie sortira de la lignée de Jessé, un rejeton de ses racines fructifiera. Et ceci est une prophétie messianique. Remarquez ce qu'il est dit. Sans considération de certaines périodes ou d'événements dans la vie de Jésus, c'est une affirmation définitive sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et si je peux me permettre d'ajouter ce qu'a ajouté l'Esprit lui-même, Ésaïe écrit que c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La croissance de Jésus, son développement, sa force, sa sagesse, sa connaissance et la grâce de Dieu sur lui sont le résultat de ce que, dès sa conception et pendant toutes les années de sa vie, l'Esprit de l'Éternel reposait sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposait sur lui. Dans le 42e chapitre de la prophétie d'Ésaïe, dans une autre prophétie messianique, il est dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai », faisant allusion au serviteur de douleur, le Messie, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Comprenons-nous que toute croissance spirituelle est le produit de l'œuvre du Saint-Esprit? Alors nous devons comprendre que pour l'incarnation, Jésus met de côté l'indépendance dont il jouit dans l'exercice de ses attributs et se soumet entièrement, devient esclave de Dieu, se vide de toutes ses prérogatives, au point de s'abaisser jusqu'au niveau d'être serviteur, de se soumettre entièrement au plan du Père, par la puissance de l'Esprit. Et tout ce qui arrive dans sa vie résulte de l'œuvre du Saint-Esprit dans le Dieu-homme. La croissance en sagesse, la croissance en connaissance, la croissance en grâce, la croissance dans la compréhension du plan du Père. Tout cela est l'œuvre de l'Esprit de sagesse, de connaissance, de force et de puissance qui reposait sur lui. Ainsi donc, de sa conception à sa naissance et pendant toute sa vie, l'Esprit de Dieu est la ressource qui le développe afin qu'il devienne celui que Dieu le destinait à être. Vous pourriez le dire ainsi. L'Esprit le façonne parce qu'il est obéissant à la puissance de l'Esprit en acceptant de déposer ses attributs personnels pour permettre à l'Esprit de le modeler, d'œuvrer en lui selon le plan du Père. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui produit en lui le développement spirituel et la maturité dans Luc 2. Lorsque ces années de préparation furent accomplies, la première chose que nous devons noter dans son ministère public se trouve dans le premier chapitre de Marc. Marc chapitre 1. Un événement très important. Marc chapitre 1 verset 10. Alors qu'il sortait des eaux du baptême, Jean-Baptiste l'avait baptisé, et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. L'Esprit n'est pas une colombe. Il n'y avait pas de colombe. Il n'y a rien de mal si vous avez dans votre maison une colombe comme symbole du Saint-Esprit. Mais l'Esprit n'a jamais été une colombe, n'a jamais apparu sous la forme d'une colombe. Il descendit et se posa sur Jésus, sous une forme visible, de la même manière qu'une colombe peut descendre se poser sur l'épaule de quelqu'un. C'est cela l'idée, comme une colombe descendait du ciel pour se poser. Ce n'est qu'une analogie ou une métaphore, mais ce que vous voyez ici, c'est le Saint-Esprit qui descend sur lui. L'Esprit était déjà avec lui, l'Esprit était déjà là depuis sa conception. Les progrès qu'il fait dans la vie sont une conséquence de l'œuvre de façonnage du Saint-Esprit en lui. Et pourtant ici, le Saint-Esprit descend. Que signifie ceci? Tout d'abord, l'approbation du ciel. Au verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est une annonce officielle que cet homme, Jésus, est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Une autre annonce officielle se fera lors de son baptême dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1 et verset 15. Le temps est arrivé. La longue attente de l'arrivée du Messie était accomplie. Le royaume de Dieu s'est approché. Et parce que le roi est ici, repentez-vous et croyez en l'Évangile. Ainsi donc, ce que vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui affirme sa déité. Le Père déclare sa déité. Il est identifié comme le Messie tant attendu. Il est le Fils de Dieu. Il est le serviteur de douleur et il est spécialement oint pour un service particulier. Il est loin. Encore une fois, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi Ésaïe 42, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61, pour prêcher l'Évangile. Il a donc le Saint-Esprit comme compagnon permanent, compagnon inséparable en outre. Il y a une déclaration officielle, une affirmation officielle, une indication visible qu'un ministère et une onction spéciale lui sont octroyés. Nous le comprendrons à la lumière de l'Ancien Testament quand David prie et dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit », comme nous l'avons vu dans le psaume 51. Il ne dit pas « N'éloigne pas de moi le Saint-Esprit », parlant de sa vie spirituelle, parce qu'il ne pouvait pas alors survivre. Même les saints de l'Ancien Testament étaient sanctifiés par l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit « Ne m'enlève pas le Saint-Esprit dans le sens de mon onction, mon appel spécial pour un service spécial ». Le Saint-Esprit est donc celui qui plane sur le corps de Marie et crée un embryon dans son sein, et il suit le développement de cet embryon, étant présent dans le sein et à la naissance et tout au long de sa vie. Il devient celui qui façonne Jésus à l'image du Messie parfait, du Sauveur parfait, du parfait serviteur de Dieu, le Fils de Dieu manifesté, la sainteté pleinement réalisée. La sainteté pleinement réalisée, façonnée sur le Fils docile par le parfait Saint-Esprit. Ensuite, il y a cette onction alors que le Saint-Esprit le met à part, outre son œuvre à l'intérieur pour un ministère particulier qu'il doit accomplir pour le monde. Le prochain événement du ministère de notre Seigneur intervient au verset qui suit, le verset 12 de Marc, chapitre 1. Immédiatement après son baptême, et juste après que le Père l'ait déclaré comme étant son Fils bien-aimé, l'Esprit le conduisit, le verbe c'est conduire, le conduisit dans le désert. Et quand il partit dans le désert, il fut tenté pendant 40 jours par Satan. Le Saint-Esprit est présent dans sa tentation. Le Saint-Esprit n'est pas seulement dans sa tentation, le Saint-Esprit n'est pas là pour accuser les coups de la tentation. C'est bien lui qui l'a conduit dans ce conflit, on est d'accord. Dans tout ce que faisait Jésus dans sa vie, il était conduit par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez de Ruach Elohim, la force violente de Dieu est en opération dans la personne de Jésus-Christ, le conduisant dans un conflit avec Satan. À la fin de ce conflit, Matthieu 4, verset 10, affirme que Jésus congédia Satan. Il l'avait vaincu. C'est le Saint-Esprit qui avait conduit Jésus dans ce conflit. Dans un sens, le Saint-Esprit en était l'organisateur. Il est le stratège qui étudie le terrain de bataille et conduit le roi sauveur, Jésus-Christ, dans la guerre sainte. Pourquoi le fait-il? Pour démontrer l'invulnérabilité de Jésus-Christ, pour clamer son triomphe sur le conflit avec Satan. Le conflit n'était pas fini là. Pendant tout son ministère, il a livré la guerre contre le royaume des ténèbres, n'est-ce pas? Chassant les démons jour après jour pendant les 3 années de son ministère, triomphant à chaque fois. Le Saint-Esprit le conduit dans le conflit avec Satan, afin qu'il puisse fournir la preuve de sa puissance à conquérir tout le territoire ennemi. Et un jour, il gagnera tout le territoire ennemi pour son royaume, et il liera Satan, avec une chaîne d'abord, et ensuite il le jettera dans le lac de feu. Le Saint-Esprit le conduit littéralement dans un conflit, afin qu'il vainc l'ennemi, qu'il triomphe et gagne pour son royaume un territoire qui appartenait à Satan. Après cette tentation, il commença son ministère. Comment commença-t-il son ministère? Il commença son ministère, selon Luc, de la même manière que toute autre chose dans sa vie. Luc, chapitre 4, verset 14, dit que le diable avait épuisé les tentations auxquelles il pouvait exposer Jésus sans succès. Et, immédiatement après, dans Luc 4, verset 44, Jésus retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit. C'était dans la puissance de l'Esprit, verset 15, qu'il commença à enseigner dans les synagogues. Tout son ministère reposait sur la puissance de l'Esprit. Il était équipé par le Saint-Esprit. Cette puissance était démontrée dans sa capacité à opérer des miracles, à chasser les démons, à guérir les maladies, à vaincre la mort, à opérer des miracles physiques. Tout cela était possible par la puissance du Saint-Esprit, uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Le témoignage de ceci est donné par Pierre. Pierre était présent pendant 3 ans. Écoutez ce que dit Pierre dans Actes 1 au verset 38. Pierre prêche aux païens, et il leur parle de Jésus-Christ, et il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu l'a oint du Saint-Esprit, et cela signifie que Dieu était avec lui, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Tous ces passages nous rappellent que l'essence de l'incarnation demande un renoncement à soi total. Il nous rappelle que Jésus est entièrement soumis à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit qui le façonne dans tous les sens afin qu'il devienne le saint que Dieu le destine à être. Tout ce qu'il faisait, s'il enseignait, il enseignait sous l'autorité de celui qu'il appelait l'Esprit de vérité. Plusieurs fois, il a parlé du Saint-Esprit comme étant l'Esprit de vérité. S'il guérissait, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Il chassait les démons, calmait les tempêtes par la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand les Juifs ont dit « C'est par la puissance de Satan que tu fais ces choses », dans Matthieu 12, il a rétorqué « Ce n'est pas contre moi que vous blasphémez, mais contre le Saint-Esprit. Il est celui qui est sans péché. Il est le Saint. Il est l'incarnation de la sainteté pleinement réalisée. Il marche parfaitement par l'Esprit. Il déploie tout le fruit de l'Esprit. Il utilise tous les dons de l'Esprit. C'est toute la puissance de l'Esprit qui émane de lui. C'est ça la vie. C'est ça son ministère. » Même quand il devait mourir, si vous regardez dans Hébreux au chapitre 9, face à la croix, et tout ce que cela impliquait, il y a cette déclaration étonnante dans Hébreux 9, au verset 14. « Le sang de Christ avait été offert sans péché à Dieu. Christ a offert son sang en sacrifice, sans tache. » Un sacrifice irréprochable à Dieu, le verset 14, par l'Esprit éternel. Même la puissance qu'il a soutenue dans le jardin, la puissance qui lui a permis d'endurer la croix, c'était la puissance du Saint-Esprit. C'était la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui avait donné la force de dire « Non ma volonté, mais que la tienne soit faite ». C'est le Saint-Esprit qui lui donnait la force de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a maintenu à la croix, jusqu'à ce qu'il dise « Tout est accompli ». C'est par la force du Saint-Esprit qu'il pouvait dire « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Et sa résurrection. Eh bien, si vous retournez dans Romains 1, nous voyons dans Romains 1 au verset 3, le Fils de Dieu, né d'un descendant de David selon la chair. Marie était une descendante de David, mais, s'il vous plaît, remarquez le verset 4, Romains 1, verset 4. « Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Qui l'avait ressuscité? L'Esprit? Le Saint-Esprit l'avait ressuscité des morts. La première épître de Timothée au chapitre 3 nous donne ce merveilleux cantique à la fin du chapitre, un cantique de l'Église primitive, sans doute à cause de sa structure grecque. Le ministère de la piété est ce ministère incroyable de Dieu en Christ. Le Dieu homme, pleinement Dieu. Ensuite, il parle de sa résurrection. C'est un cantique sur la résurrection. Il avait été révélé dans la chair. Il a eu une résurrection corporelle, et cette résurrection de son corps était une justification en esprit. Ici encore, nous avons le témoignage que c'est le Saint-Esprit qui était la puissance de la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est sa puissance. Vous pourriez dire, mais après la résurrection, a-t-il repris les choses en main? A-t-il dit, c'est bon, Saint-Esprit, tu en as assez fait, à partir de maintenant, je prends les choses en main. Lisez Acte 1. 40 jours s'écoulèrent après sa résurrection, et ensuite il monta au ciel. 40 jours s'écoulèrent, et vous pouvez voir ce qu'il avait fait pendant ces 40 jours dans Acte, chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3, il est écrit « Pendant 40 jours, il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il prêchait et enseignait de son gré. Pendant 40 jours, il prêchait et enseignait. » Retournons au verset 2. « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Qui était la puissance des enseignements de ces 40 jours? Le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit continua à l'équiper pendant 40 jours. Il donnait des ordres aux apôtres, une façon de dire qu'il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et tout cela, c'était par le Saint-Esprit. J'ignore s'il vous est déjà arrivé de voir la vie et le ministère de Jésus dans cette perspective, mais c'est quelque chose d'épatant, vraiment. Et pouvez-vous l'imaginer? Ils y sont habitués. Ils savent qu'il attribue tout ceci au Saint-Esprit. Ils savent que les Juifs l'avaient attribué à Satan, et il a dit « Vous blasphémez le Saint-Esprit ». Ils étaient présents. Vous souvenez-vous quand Jésus leur a dit dans la chambre haute « Il a été avec vous », parlant du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. « Il a été avec vous », chapitre 14, verset 17. « Il sera où ? En vous. » Vous souvenez-vous quand il l'avait dit « Il y a là quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas encore pensé. » « Il a été avec vous. » C'est une affirmation très spéciale. Comment le Saint-Esprit demeurait-il particulièrement avec eux ? En Christ, il a été avec vous. J'ai été avec vous. Il a été avec vous. Il a été avec vous et tout a été merveilleux, merveilleux. Vous avez tout vu. Vous avez tout entendu. Quelle formidable expérience. Il a été avec vous. Mais il a dit aussi, il sera où ? En vous. C'est encore mieux. Vous l'avez vu en moi, il sera en vous. Vous avez vu sa puissance en moi. La même puissance sera en vous. Je vous assure, c'est une promesse bouleversante. Voilà pourquoi il leur dit dans Jean 16 au verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, ça ne marchera pas. Mais si je m'en vais, j'enverrai le Saint-Esprit, et il sera en vous. Si j'avais été présent pendant qu'il disait ces mots, j'aurais été rempli d'espérance. Ici, dans Acte 1, Jésus dit au verset 5 « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans quelques jours, ça va se faire. » Plus tôt, dans Jean 20, après sa résurrection pendant les 40 jours, il leur dit au verset 22 « Recevez le Saint-Esprit, et il souffle sur eux comme pour dire que la puissance vous est communiquée. » Plus tôt encore, dans Jean 7, au verset 37, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Encore une fois, il s'agit de la puissance. C'est une force. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est la même idée. Vous allez avoir une rivière puissante coulant au-dedans de vous. Vous ne l'avez pas encore reçu, mais vous l'avez vu en moi. J'étais avec vous et il a été avec vous. Mais lorsque je serai glorifié, j'enverrai le Saint-Esprit et il sera en vous. Retour à Acte 1. Que va-t-il arriver quand cela se produira ? Au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Qu'avons-nous appris dans Romains 8 ? Que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, si vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Ne l'avons-nous pas déjà dit ? Votre corps est un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est incroyable. Ça s'est produit juste quelques jours après. Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Nous savons qui c'était, n'est-ce pas ? C'était le rouach de Elohim, le vent impétueux, le symbole du Saint-Esprit. Et non seulement cela, de petits morceaux de feu semblables à des langues de feu dansaient sur les têtes des gens. C'est un autre symbole de la force et de la puissance du Saint-Esprit. La promesse que Jésus avait faite ce jour-là s'accomplit. Et depuis lors, chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit, la puissance. Maintenant, considérons notre modèle Jésus, parce que les mêmes choses qu'il voyait l'Esprit de Dieu faire dans sa vie sont exactement celles que l'Esprit fait dans nos vies. Commençons dès le début. Il avait donné la vie au Christ incarné, et il nous donne la vie. Vous devez naître de l'Esprit. C'est lui qui régénère. C'est le Saint-Esprit qui faisait croître Jésus en sagesse et en connaissance. C'est le Saint-Esprit qui nous fait grandir. 2 Corinthiens 3, 18 dit que pendant que nous contemplons la gloire du Seigneur, pendant que nous contemplons la gloire du Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est l'Esprit qui vous fait croître. C'est l'Esprit qui vous enseigne. Il est l'onction venue de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait croître en grâce, en sagesse et en connaissance. Non seulement il vous donne des ressources dans la parole, mais il est l'enseignant interne qui vous illumine. Il est la force de croissance dans votre vie. C'est l'Esprit qui était descendu pendant le baptême de Jésus. Et c'est, selon 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit qui est le moyen par lequel Christ nous introduit dans le corps de Christ. Nous sommes baptisés par le Saint-Esprit au moment de notre conversion dans le corps de Christ. Et nous faisons partie du corps de Christ. Nous portons l'onction qui est sur lui et nous assumons ses responsabilités dans le monde. Nous sommes Christ dans le monde. Il est notre tête. Nous sommes son corps. Nous sommes l'Église, la seconde incarnation de Christ. Nous avons été mis à part pour un service spécial dans le monde en tant que Christ pour le monde par le baptême de Christ, par le moyen du Saint-Esprit. En passant, c'est le Saint-Esprit qui pourvoit une issue de victoire dans le conflit avec Satan, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Nous vaincrons toutes les ruses du diable, toutes les tactiques de l'ennemi par l'épée de l'Esprit en nous. Non seulement par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, mais aussi par la puissance de l'Esprit en nous. Il nous donne la victoire dans nos tentations. C'est lui qui nous aide à triompher. Voici ce que promet l'Écriture. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui avait donné à Jésus la puissance pour supporter la douleur quand il était à la croix, la force pour supporter la souffrance, pour endurer la croix. Et c'est le même Esprit qui nous donne la force dans notre souffrance liée à la croix. Voilà pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre que si vous souffrez pour Christ, écoutez, l'Esprit de grâce et de gloire repose sur vous. Vous pouvez endurer la souffrance et la douleur, toutes les difficultés qui surviennent dans votre vie, parce que le Saint-Esprit vous en donne la force. Il est l'Esprit de grâce et de gloire qui repose sur vous, et quand Christ sortit du tombeau, c'est le Saint-Esprit qui est le sorti de la tombe. C'est pareil pour nous, et tout cela nous conduit dans Romains 8. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à vos corps mortels. Voyez-vous cela? Par son Esprit qui habite en vous, il vous a donné la vie, il vous a fait croître à l'image de Christ, il vous baptise. Il assure la victoire face à la tentation, la force pour vaincre Satan. Il vous donne la force pour tenir dans la souffrance, et un jour, il vous relèvera, immortel, de la tombe. En attendant, il fait autre chose dans Actes 1 au verset 8. Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, quels sont les prochains mots, mes témoins. Il avait équipé Christ pour prêcher, il équipait Christ pour proclamer, et il fait la même chose avec nous. Il nous équipe pour proclamer, et si vous remettez cela en cause, regardez dans Actes chapitre 2 et voyez ce qui se passe. C'est un peu le produit fini. Quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous donne la vie? Pourquoi le Saint-Esprit nous fait-il grandir à la ressemblance de Christ? Pourquoi nous place-t-il dans le corps? Pourquoi nous donne-t-il la victoire sur le péché et Satan? Pour quelle raison le Saint-Esprit nous amène-t-il à la maturité par les souffrances, par la victoire sur la souffrance? À quelle fin fait-il tout cela? Pour faire de nous des témoins efficaces, afin que, écoutez, afin que la grande commission soit accomplie. Vous savez, quand Jésus a dit « Allez dans le monde et prêchez l'Évangile à tout le monde », c'était pour réaliser une promesse de l'Ancien Testament, suivant laquelle il serait une lumière pour les gentils, que Dieu, dans le psaume 2, écoutez-moi, lui donnerait les nations en héritage. Dieu lui donnerait les nations en héritage. Ce que le Saint-Esprit veut obtenir à la fin, c'est faire de vous un puissant témoin pour la gloire de Christ et la puissance de transformation de l'Évangile, et vous envoyer un aperçu le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend et que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est qu'il y avait là, présent, verset 5, les gens de toutes les nations sous le ciel, les gens de toutes les nations de la terre. Et que se passe-t-il ensuite? Il y eut un bruit, un vent impétueux, la foule se rassembla, et chacun d'eux entendait les 120 chrétiens parler dans sa langue. Savez-vous ce que cela démontre? Cela démontre que la raison pour laquelle l'Esprit fait son œuvre en Christ et en vous, c'est pour accomplir la grande mission, propager le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. On en voit un aperçu dès l'instant où l'Esprit vient. Et tout d'un coup, les gens commencent à entendre. Les Parthiens, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, la Cappadoce, de Ponte, de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les districts de la Libye, les environs de Cyrène, les visiteurs de Rome, les Juifs, les prosélytes, les Crétois, les Arabes, tout le monde les entendait, chacun dans sa langue. Ils entendaient le récit des puissantes œuvres de Dieu, la grande histoire de la rédemption, l'histoire du salut, revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Vous y avez un aperçu de l'accomplissement de la grande mission. Quand le Père faisait la promesse au Fils, « Je te donnerai les nations en héritage. » Pensez-vous qu'il respectera cette promesse? Allez dans l'Apocalypse et voyez les gens de toutes les langues, tribus, peuples, et les nations rassemblées autour du trône et le moyen utilisé pour que cette prophétie puisse s'accomplir, pour que le Père donne les nations en héritage à son Fils par l'œuvre du Saint-Esprit et à travers les chrétiens comme vous et moi. Chose bouleversante, vraiment bouleversante. Vous parlez d'importance? Il se trouve que vous êtes la plus puissante force dans le monde pour l'accomplissement du plan du Créateur et du Rédempteur des hommes. Que peut faire le Saint-Esprit dans votre vie? Il veut vous façonner à l'image de Christ. Maintenant, il a bien moins à faire qu'avec Jésus. Quand vous êtes né, personne ne s'est écrié « Oh, un autre saint !» Ce qu'il désire faire, c'est vous amener d'un niveau de gloire à un autre encore, en vous faisant grandir à l'image de Christ. Un jour, il vous élèvera et vous rendra exactement comme Christ. En attendant, il y travaille. Maintenant, ayant ceci en pensée, regardez Romains 8, juste un commentaire. Vous dites, « Oh, c'est super, je sais que faire, je vais me détendre et laisser faire son œuvre. » Ah oui, c'est le vieux proverbe, « Se croiser les bras et laisser Dieu faire. » C'est tout un mouvement, ça, vous savez. Le mouvement « Keswick ». La vie profonde, le mouvement des Quakers. Non. Lisons le verset 2 avec toute cette œuvre incroyable que le Saint-Esprit fait en nous. Nous avons l'obligation. Vous avez l'obligation, vous êtes endetté. Quelle est votre dette? Certainement pas vivre selon la chair, n'est-ce pas? Vous ne devez rien à la chair. Qu'avait fait la chair pour vous? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est la définition d'un non-croyant. Ceci veut dire qu'il n'y a plus d'excuses parce que la puissance de la chair a été brisée. Ce n'est plus une force dominante, il n'y a pas d'excuses. Vous vivez par l'Esprit, et si vous vivez par l'Esprit, vous mettez à mort les œuvres de la chair, vous vivrez. En d'autres termes, vous avez la vie. Que font les chrétiens? Ils mettent à mort les réminiscences des faits de la chair. C'est ce que nous appelons les péchés restants. Vous savez, vous n'êtes pas comme Christ qui est saint. Inoffensif, pur, séparé des pécheurs, le saint. Nous devons lutter contre le péché, mais de la même manière que le Seigneur Jésus a triomphé de Satan. Nous avons la puissance du même Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui mènera le combat en nous. Mais vous ne pouvez pas croiser les bras et attendre Dieu. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Vous ne trouvez cette attitude nulle part. Cette idée de défaitisme n'est pas dans la Bible. Ce que la Bible dit, c'est qu'il faut assujettir votre corps afin de ne pas être rejeté. Ce que la Bible dit, Paul le dit ainsi, « Je cours, je participe à une course, je boxe, je combats de toutes mes forces. Je travaille jusqu'à la transpiration et à l'épuisement. Je travaille durement, dit-il. Il dit de telles choses encore et encore. L'expression ici, mettre à mort les œuvres de la chair. Vous devez mettre ces choses à mort. » Il ne s'agit pas de flotter ça et là. Le Saint-Esprit est puissamment à l'œuvre et votre responsabilité est de faire usage de toute la puissance dont vous disposez dans sa force pour tuer les péchés encore présents dans votre vie. C'est ce que font les vivants. C'est ce que font ceux qui vivent dans la puissance de l'Esprit. Père, nous te remercions de ce que nous avons pu étudier certaines de ces choses d'une façon légère, il est vrai. Car elles sont riches en signification. Je te prie d'aider mes chers frères et sœurs à comprendre, peut-être d'une manière nouvelle, avec une nouvelle perspective, la réalité de ton merveilleux ministère en nous, les chrétiens. puissions-nous t'aimer plus, te remercier plus, prier pour ta grâce, pour le revêtement et l'équipement que tu nous donnes à chacun. Puissions-nous, comme Christ, manifester le fruit de l'Esprit. Puissions-nous, comme Christ, faire usage des dons de l'Esprit qui nous ont été donnés. Puissions-nous être fidèles à notre appel, tout comme Christ était fidèle à ton appel par le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, nous demandons d'être en mesure d'honorer le Fils. C'est cela ton désir, pendant que tu nous façonnes à son image, quand tu nous montres Christ et quand nous contemplons sa gloire. Puissions-nous sans cesse lui ressembler, afin que le monde le voie et soit attiré à lui. Merci pour toute l'œuvre que tu fais en nous, alors que nous en sommes tellement indignes. Nous t'en sommes reconnaissants. Puissions-nous être fidèles pour mettre à mort le péché qui subsiste encore en nous, afin que nous puissions te plaire, plaire au Fils, plaire au Père. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.